École normale supérieure, savoir en multimédia.
Bonsoir. Dans le cadre de l'ouverture du séminaire aux nouvelles générations, nous avons le plaisir d'accueillir Julien Page, alors qui a obtenu un post-doc dans le cadre d'une ERC de Gabriel Catrène, qui interviendra le 10 juin, je crois, sur des problèmes un petit peu du même ordre. Donc, Julien Page va nous parler de la structure galoisienne abélienne du principe d'indétermination harmonique de Heisenberg. Et il travaille au laboratoire Sphère ex-Réséis à Paris 7.
C'est ça.
Et après avoir fait une thèse à Paris 8, c'est ça?
C'est ça.
Voilà, et bien merci beaucoup.
Bonjour tout le monde. Merci aux organisateurs de m'avoir proposé de parler ce soir. Donc, je voudrais dire que ce travail est un travail collectif qui a été fait en étroite collaboration avec Gabriel Catrène dans le cadre de son ERC sur la philosophie de la gravité quantique. Donc, à l'origine de ce travail, il y avait la proposition de réfléchir sur la notion de symétrie à partir de, en quelque sorte, les origines historiques de la notion de groupe, donc dans la théorie de Galois, et également dans sa reprise par Grothendieck. L'enjeu pour nous était de contribuer à mieux comprendre la mécanique quantique, et plus précisément le problème a consisté à essayer de cerner, de définir, pour comparer deux notions a priori bien différentes, et en tout cas au départ étrangères, donc la notion d'indiscernabilité galoisienne et la notion d'indétermination quantique telle qu'elle apparaît dans le principe d'indétermination de Heisenberg. Donc c'est un travail en cours, hein, qui n'est pas complètement achevé, mais on a des indices de résultats qui montreraient que, contrairement à ce qu'on pourrait penser initialement, c'est-à-dire une opposition entre les deux concepts, on a trouvé des points communs. Qu'on a choisi d'appeler structure galoisienne de l'indétermination quantique. Bon. En discussion. Donc, quelques petits rappels. Le principe d'indétermination de Heisenberg s'exprime comme une borne pour le produit des incertitudes sur la position et l'impulsion P pour une particule quantique de masse m en une dimension. Donc c'est la formule rouge. Donc je voudrais signaler que des points de vocabulaire. Initialement, Heisenberg employait le terme d'incertitude, en allemand Unsicherheit. Et puis, il a réalisé que ça ne correspondait pas exactement à ce qu'il voulait dire, ou que c'était peut-être un petit peu confus, ou inexact. Et donc, il a préféré ensuite le terme d'indétermination. Mais l'article en anglais avait déjà été traduit avec le terme incertitude. Là, je me réfère aux remarques historiques de Lévy Leblon et Balibar. Et donc, le terme un petit peu officiel qui est resté en anglais, en tout cas, c'est plutôt incertitude. Mais on a préféré, dans cette étude, conserver le terme d'indétermination. qui nous semblait être une limitation plus du côté de l'objet que du sujet. Le terme incertitude a une couleur un petit peu subjective. Or, l'indétermination quantique ne dépend pas d'une puissance épistémique du sujet. C'est vraiment une caractéristique de l'objet quantique. Ce n'est pas en améliorant de façon quantitative la puissance, la précision de la mesure, par exemple, ou la force épistémique du sujet, qu'on pourrait contredire cette relation de Heisenberg. Donc, on a préféré un terme plus objectif, celui d'indétermination. Dans le titre, comme vous avez pu le voir, il y a le mot harmonique. C'est pour dire que le biais mathématique par lequel on abordera cette relation de Heisenberg, c'est en tant que théorème d'analyse harmonique. C'est-à-dire, étant donné des distributions de probabilité pour x et pour p, chacune étant la transformée de Fourier de l'autre, eh bien, donc la relation de Heisenberg s'écrit comme ceci en rouge, où les sigma désignent les écarts-types des distributions. Donc le F, c'est la densité est lié à la densité de probabilité de X, et le F chapeau, ici, qui est la transformée de Fourier de F, correspond à la densité de probabilité de P. Donc, finalement, c'est un théorème d'analyse harmonique. Donc, je signale que le minimum, c'est-à-dire le cas d'égalité, est atteint pour les états gaussiens, c'est-à-dire les distributions F, enfin, les fonctions d'onde F, sous cette forme-là, gaussienne. Donc, pour des états quantiques de ce type, on parle d'états quantiques cohérents, comprimés. Bon, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Le terme comprimé vient au facteur oméga 0 ici et tient au fait que le delta x et le delta p ne sont pas égaux. Donc, c'est une modification de ce qu'on appelle un état quantique cohérent. J'y reviendrai. Ces états quantiques cohérents, comprimés, décrivent des situations semi-classiques. Bon, j'y reviendrai. Donc, à l'inverse, donc sur un plan complètement différent, l'indiscernabilité galoisienne, elle, au contraire, dépend d'une certaine manière de la puissance épistémique du sujet. Je vais expliquer ce que j'entends par là. Si on veut définir un nombre x par cette équation, x au carré plus 1 égale 0, en réalité, il y a une ambiguïté pour ce que j'ai appelé un R sujet, c'est-à-dire un sujet qui ne disposerait pour faire des mesures ou des calculs ou des définitions polynomiales uniquement du corps des réels. Donc pour lui, i et moins i, qui sont les deux racines complexes de ce polynôme, les deux racines sont indiscernables. Il ne peut pas distinguer par des formules polynomiales écrites dans le langage de R entre i et moins i. Par contre, un sujet qui aurait plus de puissance de connaissance ou plus de puissance épistémique et qui, lui, disposerait de plus de langage, de plus d'outils épistémiques, qui disposerait du corset. Lui pourrait bien sûr distinguer I et moins I, en formulant par exemple l'équation X moins I égale 0, qui est écrite dans le langage des complexes. Propriété qui est vraie pour I, mais fausse pour moins I. Donc, pour un C sujet, il y aurait moyen de discerner entre I et moins I. Donc, contrairement au cas quantique, la limitation dans la connaissance pour la théorie de Galois est liée à la puissance épistémique du sujet. C'est pourquoi on a choisi un terme différent, le terme de indiscernabilité, qui a une couleur plus subjective, et on a réservé au cas quantique le terme d'indétermination, qui a une couleur plus objective. Donc la théorie de Galois consiste à associer à une situation d'indiscernabilité telle que celle-ci un groupe de permutations entre les racines de cette équation. Donc dans ce cas simple, c'est le groupe S2 des permutations qui permute I et moins I, qui comprend deux éléments, la transposition des deux éléments et l'identité. Et d'une manière générale, la théorie de Galois donne un cadre général à cette idée. C'est-à-dire qu'étant donné une équation donc polynomiale P de X égale 0, où P est un polynôme, écrit dans un corps K, il faut bien préciser à quel niveau épistémique on se situe, les racines de ce polynôme, si elles n'existent pas dans K, existeront dans un corps de rupture, donc un corps plus gros que K, qui contiendra toutes les racines qu'on peut supposer distinctes dans l'exemple. Donc, par exemple, je prends un exemple un petit peu plus évolué que le premier. L'équation x puissance 4 plus 1 égale 0. Donc, écrite avec le corps de base, le corps de départ, le petit corps k qui sera q, les nombres rationnels. Donc, on a quatre racines distinctes qui sont notées ici. Et donc, la théorie de Galois consiste à faire une correspondance entre tous les corps intermédiaires, ici dessinés, formulés du côté gauche, donc les corps F, qui sont intermédiaires entre Q, le corps de base, et le corps qui est ici en haut, qui est le corps qui contient toutes les racines. Voilà. Ce corps-là contient les quatre racines, alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4. Donc, quand on regarde n'importe quel corps intermédiaire, par exemple celui-ci, QI, on peut lui associer, tout à fait à droite, un sous-groupe du groupe G. Qu'est-ce que c'est que le groupe G ? C'est le groupe de Galois de l'équation polynomiale P de X égale 0, qui consiste à prendre certaines permutations des racines de ce polynôme. Pas toutes. Je ne rentre pas dans les détails. Donc, la correspondance consiste à associer, donc, comme je le disais, à chaque corps intermédiaire un groupe d'indiscernabilité des racines. Donc, prenons l'exemple du corps de base, Q. Là, on a le minimum de pouvoir épistémique, c'est-à-dire qu'on peut discerner, on a le moins de capacité possible pour discerner entre les quatre racines. Donc le groupe d'indiscernabilité, le groupe d'ambiguïté, on pourrait dire aussi, c'est G, qui contient quatre éléments et qui est maximal. on a le maximum d'indiscernabilité. Le cas inverse extrême, quand on prend maintenant le corps qui comprend toutes les racines, le cas de tout à l'heure, c'était le corps C. Bon, maintenant, on a tous les pouvoirs possibles pour discerner les racines. Donc, il n'y a plus aucune indiscernabilité, il n'y a plus aucune ambiguïté. Donc, le groupe d'indiscernabilité, maintenant, il est réduit à l'identité. Il est le plus petit possible. Et on a le cas intermédiaire, par exemple, le groupe de Galois qui correspond à l'extension Q de I, qui est intermédiaire. Bon, c'est le groupe à deux éléments qui est engendré par cet élément qui échange alpha 1 et alpha 3 et qui échange alpha 2 et alpha 4. Là, au milieu, j'ai mis les différentes décompositions de l'équation initiale P formulée avec les ressources épistémiques des corps correspondants. Donc, on voit que tout à fait en haut, le polynôme est décomposable en produits de facteurs de degré 1, puisque les éléments sont dans le corps. Et là, vous voyez qu'au niveau intermédiaire, on peut distinguer, par exemple, entre alpha 1 et alpha 4. Alpha 1 est une racine de ce facteur, alpha 4 est une racine de celui-ci. Mais on ne peut pas encore distinguer alpha 1 et alpha 3, qui sont toutes les deux racines de ce facteur. Donc, on peut formuler comme un principe d'indiscernabilité galoisienne, puisqu'on voit qu'on a une sorte de balance, en quelque sorte. Plus les corps du côté gauche sont puissants, plus ils sont gros, plus, inversement, le sous-groupe d'indiscernabilité est petit. Donc, on a comme ça un effet de balance entre la taille des corps qui servent à discerner les racines et les sous-groupes d'indiscernabilité. Donc maintenant, notre problème consiste à trouver des liens conceptuels, bon, positifs ou négatifs, on va voir, entre donc l'indiscernabilité galoisienne et l'indétermination quantique, qui sont maintenant un petit peu plus définis. Donc, tout d'abord, quelques points communs. On peut dire que dans les deux cas, on a une formalisation mathématique d'une limitation de la connaissance. Dans les deux cas, cette limitation prend un aspect varié, c'est-à-dire qu'on a différents degrés d'indiscernabilité qui sont mesurés par le treillis des sous-groupes de Galois ou le treillis correspondant des corps intermédiaires. Dans le cas quantique, on a aussi des échelles de comparaison entre différentes indéterminations par les nombres delta x et delta p, qui peuvent être plus ou moins larges. Et on remarque que dans les deux situations, on a un caractère double, c'est-à-dire que dans le cas quantique, on a deux variables conjuguées x et p. Dans le cas galoisien, on a d'un côté les corps, de l'autre les sous-groupes. On verra plus tard que cet aspect double est important. Par contre, ces points de convergence ou ces points de ressemblance sont un petit peu trop vagues et trop faibles philosophiquement, conceptuellement, pour vraiment dresser des liens conceptuels forts. En revanche, on a des différences fondamentales très fortes qui semble aller plutôt contre l'idée d'un rapprochement entre les deux notions. Donc, première différence, donc je l'ai un petit peu évoqué au début dans les définitions, au niveau des interprétations philosophiques, au moins, l'indiscernabilité galoisienne est plus liée à une présentation subjective. comme on l'a vu, elle dépend de la puissance épistémique du sujet. Au contraire, l'indétermination quantique est immanente à l'objet, donc elle a un caractère plus objectif, pour ne pas dire ontique. Deuxième différence importante, les symétries galoisiennes peuvent être brisées. C'est-à-dire que dans la hiérarchie des corps épistémiques, il existe un corps maximal tout en haut dans lequel on peut discerner complètement toutes les racines. Au contraire, pour le principe de Heisenberg, on ne peut jamais violer la relation de Heisenberg. Il y aura toujours une indétermination fondamentale qui va demeurer. Et enfin, troisième obstacle, en quelque sorte, pour un rapprochement, l'indiscernabilité galoisienne est mesurée par un sous-groupe, H, du groupe G, alors que l'indétermination quantique est mesurée par des nombres, delta X et delta P. Donc, on ne voit pas trop, pour le moment, comment rapprocher les deux. Donc, je voudrais faire un petit point de... une petite discussion sur la manière dont on a souhaité s'inscrire dans le sujet du séminaire de cette année, qui s'intitule « Croisement fondationnel mathématiques-physique ». Donc, une orientation pour approfondir la comparaison entre les deux concepts pourrait être celle... la perspective de Hilbert, qui était d'axiomatiser la physique, comme l'a rappelé Pierre Cartier dans une autre conférence. Pourtant, donc, ça ne sera pas la voie que nous choisissons. Si on entend par la perspective de Hilbert une idée de fondement formaliste. Plutôt qu'un fondement logique, si on veut quand même donner un sens au terme de fonder, on préférera la notion de fondation conceptuelle, dont le point de principe correspondrait à ce qu'avait appelé Joël Merker un cœur de question. À la source du développement de la connaissance mathématique. Voilà, donc par fondation, liée au concept, on entendrait donc une analyse des raisons d'être et une recherche de synthèse principielle, le concept étant entendu dans un sens de représentation abstraite, avec usage des mathématiques autant que possible, et également de réflexion et devenir de soi, de cette représentation. Ce qui va motiver une dynamique de recherche, d'approfondissement des concepts à l'œuvre. Et je voudrais aussi préciser que notre travail dans le RC consiste à pratiquer une démarche philosophique homogène et intérieure à la science, selon la perspective qu'a initié Gabriel Catrenne pour son projet. Et par conséquent, si Daniel Benkin proposer de dire que les mathématiques et la physique procèdent d'un même regard, un même effort pour comprendre géométriquement le monde, en distinguant la physique qui, selon lui, serait un travail d'explication, et les mathématiques qui correspondraient à un travail d'explicitation, nous voudrions adjoindre de l'intérieur un troisième point qui serait un effort philosophique compris comme travail de conceptualisation. Donc, comme je l'annonçais au départ, malgré les différences fortes que l'on a pu pointer au départ, on propose un rapprochement entre les notions d'indiscernabilité galoisienne et d'indétermination quantique par le biais de la théorie de Galois formulée par Grothendieck, qui consiste en, d'une certaine manière, une géométrisation de la théorie de Galois. Donc, tel qu'on l'a formulé au départ, avec les petits exemples des équations polynomiales, on avait d'une certaine manière des prédicats qu'on pouvait formuler à l'égard des racines, exprimés en termes de formules polynomiales. Maintenant, on va employer, avec l'analyse philosophique du travail de Grothendieck, un vocabulaire plus physique, celui d'observable et de propriétés objectives. Parallèlement, les corps épistémiques vont être généralisés en des algèbres dans la théorie de Grothendieck, et nous les interpréterons comme algèbres d'observable. Dans la théorie de Grothendieck, les groupes d'indiscernabilité H n'apparaissent plus comme tels, en tout cas dans la correspondance finale. Par contre, ce qui apparaît, c'est ce qu'on a choisi d'appeler des espaces d'état, qui sont des G ensemble, des G7, je ne sais pas comment dire en français, dont le modèle canonique est donc un quotient G quotienté par H. Donc tous les sous-groupes H se retrouvent, mais sous forme de groupes d'isotropie du G espace, et donc on considérera plutôt les G espaces G sur H. Donc la version de Galois de Grothendieck consiste à associer, selon nous, Galois et Gelfand. Qu'est-ce qu'on entend par Gelfand ? C'est la transformée de Gelfand est symbolisée ici. C'est une dualité entre des algèbres et des G-espaces. On a une formulation bien adaptée dans le cadre des C-étoiles algèbres, mais on a aussi une formulation de dualité qui fonctionne bien dans le cadre de la théorie de Galois. Où, donc, étant donné une algèbre, une L-algèbre, on prend son spectre, qui est défini comme suit, les morphismes de l'algèbre A dans un corps de référence L, et on obtient un G-espace, c'est-à-dire un espace muni d'une action du groupe de Galois G. Inversement, pour aller dans l'autre sens, lorsqu'on a un espace X, on peut définir l'algèbre des fonctions sur X, que j'ai noté ici L puissance X. Et donc, sous certaines conditions, sur les algèbres et sur les espaces, on a un isomorphisme, c'est-à-dire une bidualité, c'est-à-dire quand on part de l'algèbre, on définit l'espace X défini comme son spectre, et on revient en regardant les fonctions définies sur le spectre à valeur dans le corps, eh bien, on retombe sur une algèbre isomorphe à l'algèbre de départ. Ce qui veut dire que les éléments de l'algèbre peuvent être vus comme des fonctions définies sur l'espace. Mais l'espace lui-même est défini comme le spectre, c'est-à-dire comme les morphismes qui agissent sur les éléments de l'algèbre A. Donc, on a une formule comme ça de dualité entre les fonctions et les éléments. Un élément de l'algèbre A, sur lui, on peut faire agir un élément du spectre, un qui, là. Mais on peut, par la bidualité, on peut considérer qu'en réalité, c'est l'élément de l'algèbre A qui agit sur le qui. Bon, c'est comme ça qu'est défini l'isomorphisme, en fait. Hein. Donc, on a cette formule de dualité entre les observables, qui seront pour nous les éléments A de l'algèbre, et les états, qui seront pour nous les éléments de l'espace X. Et donc, la nouvelle formulation de Grothendieck consiste donc à mettre en relation les algèbres, maintenant. Hein, donc, je signale que les corps intermédiaires peuvent être vus comme des K-algèbres, en réalité, hein, puisque ce sont des extensions de corps du corps de Basca. Si on procède à une extension de scalaire avec le corps grand L, qui est le corps de rupture du polynôme P, on arrive à des algèbres diagonales, c'est-à-dire des puissances de L, c'est-à-dire des algèbres de fonctions définies sur les espaces X, qui sont maintenant mis dans la correspondance tout à fait à droite. Ce sont les espaces d'état. Donc ici, notés avec des points. Et donc maintenant, le principe d'indiscernabilité galoisienne peut prendre une expression numérique, puisque l'algèbre, la taille de l'algèbre peut être mesurée par sa dimension en tant qu'espace vectoriel. Le groupe d'indiscernabilité peut être mesuré numériquement par son cardinal. Et dans le cas canonique de l'espace G sur H, on a donc la formule écrite ici, puisque la dimension de l'algèbre sera le cardinal de G sur H. Donc cardinal de G sur H fois cardinal de H donne bien sûr cardinal de G. Donc on a dans la situation de Galois maintenant une dualité entre les algèbres d'observables et les espaces d'état, qui correspondent grosso modo les états correspondent aux racines qu'on peut discerner au moyen de l'algèbre. Alors, dans le cas quantique, on avait aussi une certaine forme de dualité, mais qui n'était pas une dualité entre structures, qui est une dualité entre états, puisque l'espace de Hilbert H, dans le cas que j'avais signalé au départ, en représentation X, donc peut être décrit simplement comme les fonctions L2, les fonctions de carré intégrable sur R, où j'ai mis un petit X en indice, donc c'est des fonctions d'onde psi de X, et comme vous savez, quand on prend la transformée de Fourier, psi chapeau, la nouvelle variable devient P maintenant, eh bien on a le même état quantique, mais décrit dans une autre base, c'est la représentation P. Donc, on a une dualité entre les psi de X et les psi chapeaux de P, mais qui n'est pas une dualité du même type que celle de Galois-Grothendieck, qui est une dualité entre états, d'une certaine manière, puisqu'on peut maintenant revenir à psi de X en prenant la transformée de Fourier inverse. Alors, ce qui nous a un petit peu guidé dans l'avancée de cet approfondissement conceptuel, ça a été un principe formulé par Magide en 1991, qui pour lui consistait à dire qu'il y avait dans l'évolution des théories physiques un principe d'autodualité, c'est-à-dire que pour lui, les bonnes théories physiques sont des théories autoduales, dans le sens où... Ah, pardon, oui. Dans le sens où les structures mathématiques, que j'ai notées ici S, qui sont pertinentes pour obtenir des bonnes théories physiques sont des structures mathématiques S autoduales, dans le sens où le dual de S, dans un sens à préciser à chaque fois, serait isomorphe à S. Dans le cas quantique, d'une certaine manière, on a une telle autodualité, puisque les espaces de Hilbert, aussi bien en représentation X qu'en représentation P, sont évidemment isomorphes. Dans la structure de Galois, on a au contraire une hétérogénéité entre, d'un côté, les algèbres, de l'autre, les espaces d'état qui sont, dans la théorie de Galois finie, des ensembles finis. Donc, les structures sont loin d'être isomorphes. Donc, comment rendre la théorie de Galois isomorphe, autoduale ? C'est un principe qui nous a guidés. Donc, comme je l'ai dit, d'une certaine manière, il y a trop d'observables et pas assez d'états. Donc, on a deux stratégies possibles pour essayer de trouver des formules... des formulations autoduales, soit de réduire le nombre d'observables, soit d'augmenter le nombre d'états. Donc, réduire le nombre d'observables, par exemple, plutôt que de prendre toutes les fonctions de G dans L, on ne va prendre que les fonctions qui sont des morphismes du groupe G dans le groupe multiplicatif de L. Donc, on ne prend pas toutes les fonctions, on en prend certaines. Deuxième stratégie, à partir du groupe, si à supposer que ce soit un groupe, mais justement on va se restreindre au cas commutatif, donc G sur H sera un groupe, on peut considérer l'algèbre du groupe, noté comme ceci, et ce qui correspond à prendre au niveau physique à des états superposés. C'est-à-dire on s'autorise à prendre des combinaisons linéaires des états simples qui sont dans le groupe de départ. C'est-à-dire qu'on considère G sur H comme une base. Et donc, ce qu'on note comme ceci, c'est l'espace vectoriel engendré par cette base. Bon. Donc, on va commencer par la première stratégie, qui consiste à réduire le nombre d'observables. Regardez les observables qui sont des morphismes de groupe de G dans le groupe multiplicatif de L. Ça correspond en réalité à prendre ce qu'on appelle le groupe des caractères. En effet, il existe une théorie, la théorie de Pontryagine, et sa dualité, qui contient aussi une dualité état observable, mais formulée au niveau des groupes abéliens. Pas au niveau des algèbres et des G-espaces. Donc, voudrais rappeler rapidement cette dualité, qui ne fonctionne bien... au départ, que pour les groupes donc localement compacts abéliens. Donc, étant donné un groupe G, on va regarder les morphismes de groupe de G dans le groupe multiplicatif S1, ce qui revient à regarder les morphismes de G dans le groupe multiplicatif de C étoiles multipliées. Je me restreins au groupe fini pour la théorie de Galois. Donc, on a un théorème de bidualité canonique, c'est-à-dire que le bidual est isomorphe au groupe G de départ, ce qui correspond à la même formule que j'avais écrite tout à l'heure, qui permet d'échanger le rôle des fonctions et des éléments. Donc, elle est écrite ici en bas, qui dénote les caractères, c'est-à-dire les éléments du dual, qui agissent sur des éléments du groupe G. Alors, si on identifie G à son bidual, ça veut dire que G, maintenant, est vu comme une fonction qui agit sur les éléments du dual, sur les qui. Donc, on a encore cette formule de dualité entre les états et les observables, mais donc dans le cadre des groupes. Et on peut prouver que ces fonctions particulières de G dans L, qui sont des morphismes de groupe, réalisent en réalité une base de tout l'espace vectoriel de toutes les fonctions. Et d'autre part, ils ont le même pouvoir de discernabilité, c'est-à-dire que, étant donné deux éléments de G différents, on peut toujours trouver un caractère qui prend des valeurs différentes sur les deux états, tout comme l'algèbre de toutes les fonctions. Bon. Mais de plus, propriété intéressante, pour les groupes finis, on a une propriété d'auto-dualité, c'est-à-dire que G est isomorphe à son dual, de façon non canonique. Mais on a tout de même un tel isomorphisme. Et cet isomorphisme est encore présent pour les groupes de la forme R puissance N, qui interviennent justement dans le cas quantique. Alors, je précise rapidement les formules qui permettent maintenant d'interpréter dans la théorie quantique harmonique. Maintenant, les impulsions P vont être interprétées comme des observables, des fonctions qui agissent sur les X par le biais de cette formule, de cette définition. À chaque nombre réel P, on peut définir la fonction de R dans R, enfin de R dans C, qui a X associé exponentielle IPX. Donc le P agit comme une observable qui discerne les différents X. Et je signale qu'on a le même type de formule des groupes du haut pour le cas où G est le groupe cyclique Z sur NZ. On a cette formule où j'ai oublié de diviser par 2π. Mais bon, on a à peu près le même genre de formule. Donc on commence de voir encore des ressemblances entre le cas continu quantique et le cas discret galoisien. À condition qu'il soit abélien. C'est pourquoi dans le titre, on avait noté le qualificatif de abélien, c'est-à-dire qu'on va se restreindre à la théorie de Galois abélienne, c'est-à-dire qu'on ne va considérer que des groupes de Galois abéliens. Donc, je passe sur un petit point technique, qui est que dans le cadre quantique, le corps de nombre, c'est le corps des complexes, C, alors que dans la théorie de Galois, on peut considérer des corps K et L arbitraires. Bon, donc on a montré des petits résultats mathématiques qui sembleraient prouver que ce n'est pas vraiment un problème et que, en réalité, pour tout groupe G abélien, c'est le problème inverse de la théorie de Galois, on peut trouver des corps K et L inclus dans C, de telle manière qu'ils contiennent suffisamment de racines de n-ième de l'unité, et de telle manière qu'on puisse définir les caractères, en réalité, pas avec C, mais avec le corps L de Galois. Bon, donc c'est des détails techniques dans lesquels je ne veux pas rentrer. Deuxième stratégie, mais je ne veux pas trop rentrer dans les détails non plus. À partir des états élémentaires qui sont dans les groupes G sur H, ce sont maintenant des groupes, puisqu'on est dans le cas abélien, ce sont toujours des G espaces, mais en plus, ils ont une structure de groupe. Donc, on peut les étendre par linéarisation, d'une certaine manière, à l'algèbre sur ce groupe. Mais Le problème, c'est que quand on prend le dual d'une algèbre, ce n'est plus une algèbre, c'est une co-algèbre. La bonne structure pour formuler des principes de dualité et d'autodualité, c'est plutôt la structure d'algèbre de Hopf, qui sont des structures algébriques qui sont à la fois des algèbres et à la fois des co-algèbres. Donc là, c'est le bon cadre pour faire une bonne théorie de la dualité au niveau des algèbres. Il faut que ça soit des algèbres, des bi-algèbres ou encore mieux des algèbres de Hopf, c'est-à-dire des bi-algèbres qui ont un antipode qui correspond à l'opération inverse. Bon, donc je ne veux pas rentrer dans les détails, mais disons que la théorie de Fourier, un petit peu généralisée et abstraite, trouve une bonne formulation dans ce cadre de la catégorie des algèbres de Hopf. Donc vous voyez la transformée de Fourier entre cette algèbre des fonctions sur G et l'algèbre du groupe dual L de G chapeau. Et l'isomorphisme entre les deux, c'est la transformée de Fourier. En précisant que le produit dans cette algèbre de gauche, l'algèbre de toutes les fonctions, c'est le produit point par point, alors que le produit dans l'algèbre, cette algèbre de droite, c'est le produit de convolution, qui est en fait la linéarisation du produit initial de G chapeau. Donc on retrouve l'idée que la transformée de Fourier transforme les produits en produits de convolution. Donc, il me reste un petit peu de temps. Donc on poursuit le processus de dualisation. Donc, on a vu que si on voulait donner un sens important à la dualité entre fonction et élément, soit en termes physiques, entre observable et état. Si on reprend l'équation polynomiale de Galois, ou un système d'équations polynomiales, PI de x égale 0, le problème initial à l'époque de Galois était de trouver les racines x. Mais maintenant, si on veut donner du sens à cette dualité entre les P et les X, on peut se poser aussi la question, étant donné des X donnés, de chercher quels sont les polynômes P qui annulent les X. C'est-à-dire qu'étant donné un système de X donné, on peut chercher quels sont les polynômes annulateurs de ces X. Bon, en géométrie algébrique, c'est quelque chose qui est à la base de la théorie. Quand on a une variété, on peut chercher l'idéal des polynômes qui s'annulent sur cette variété. Ou dans l'autre sens, quand on a un système de polynômes, on va chercher la variété des points qui sont les solutions du système d'équations. Par contre, le bon cadre pour penser cette double recherche des x ou des p, c'est plutôt en termes de la dualité de Pontryagin, c'est-à-dire entre le g et le g qui va représenter toujours les racines du polynôme, mais plutôt que des polynômes p appartenant à l'anneau des polynômes, plutôt des caractères qui ont été définis avant, qui sont des éléments du groupe dual. Donc. Et donc, on va plutôt considérer les équations écrites avec les caractères, donc des équations de la forme qui de G égale 1. Et donc, on va s'intéresser à la dualité du problème que ça pose, c'est-à-dire, étant donné un système de qui donné, quels sont les G qui vérifient cette équation, et inversement, étant donné un système de G donné, quels sont les qui vérifient cette équation. Alors, quand je dis un système, c'est plus que ça, puisque ça va être des sous-groupes. puisque je rappelle que dans la théorie de Galois, les groupes d'indiscernabilité des racines sont des sous-groupes H du groupe G. Donc, étant donné un groupe H, un sous-groupe H de G, on peut se demander quels sont les keys nécessaires pour définir ce sous-groupe H. Eh bien, c'est ce qu'on a, le groupe orthogonal, c'est-à-dire les caractères qui donnent 1 sur tous les éléments de H. Donc, on va dire que ce groupe, on va l'appeler H', c'est les solutions qui est défini par, ou sert à définir le groupe H, mais évidemment, par dualité, ça marche dans les deux sens. Le groupe H, le système des états appartenant à H, sert aussi par le même système d'équations à définir les quies qui seront dans H'. Donc, on a une correspondance mutuelle, maintenant, entre les sous-groupes de G, ce qui était déjà le cas de Galois, et maintenant, donc, les sous-groupes du dual, G chapeau, les H', qui servent à définir les H, ou inversement, le H' est défini par le H. Donc, on a une correspondance maintenant entre les sous-groupes d'un côté de G, de l'autre côté, les sous-groupes de G chapeau. Alors, en fait, on a un théorème très simple, une propriété très simple qui montre que le groupe orthogonal H' est isomorphe au dual de G sur H. Que veut dire cette formule ? Ici, à droite, on a les observables élémentaires qui ne voient pas à l'intérieur de H, d'une certaine manière, puisque dans ce quotient, H est la classe nulle. Donc, ça, ce n'est pas étonnant que ça corresponde au H' qui ne peut pas discerner à l'intérieur du H. H' puisque toutes les valeurs sur H donnent 1. On ne peut pas discerner des différents éléments de H avec H', puisque toutes les valeurs sont toujours 1. Par contre, on peut discerner entre différentes classes du groupe G sur H. Celles qui sont dans la classe de H auront pour valeur 1, les autres auront d'autres valeurs. Donc, maintenant, le principe d'indiscernabilité galoisienne va se reformuler en termes des cardinaux de H et des cardinaux de H'. Puisque, en effet, on voit sur cette propriété d'isomorphisme que H' a le même cardinal que G sur H, puisque c'est le même cardinal que son dual. Donc, maintenant, le produit a lieu entre le cardinal de H et le cardinal de H'. Alors, donc H est vu comme un paquet d'états élémentaires, un groupe qui contient différents états élémentaires. On va le coder maintenant avec la fonction d'onde, la fonction indicatrice de H, 1 indice H, c'est-à-dire qui prend pour valeur 1 pour les éléments qui sont dans le groupe et 0 pour les éléments qui ne sont pas dans H. Et on va faire de même pour H' au niveau des observables. On va coder le groupe H' par sa fonction indicatrice, qu'on va voir comme une fonction d'onde dans l'algèbre des fonctions définie donc de G chapeau à valeur dans L. Donc on va considérer que H, d'une certaine manière, est un état superposé qui comprend tous les états simples qui sont dans H. Bon, il faut penser par exemple à la gaussienne. qui comprend tous les X qui sont dans la cloche. Et donc, maintenant, le principe galoisien s'écrit avec les supports de ces fonctions d'onde. Puisque le cardinal de H, évidemment, c'est le cardinal du support, c'est-à-dire là où la fonction est non nulle. Et je signale que on peut prouver que la transformée de Fourier de la fonction indicatrice de H, c'est la fonction indicatrice du groupe orthogonal, hein, de H'. Donc, en réalité, la formule de Galois peut maintenant s'écrire avec les fonctions indicatrices de ce groupe, comme ça, mais en utilisant maintenant la transformée de Fourier. Donc, on se rapproche de plus en plus de la formulation quantique, du principe quantique. Donc, je voudrais signaler qu'il existe de nombreuses formulations de principes d'indétermination, notamment certains qui utilisent l'entropie de Shannon. En tout cas, et bon, certains sont formulés pour des fonctions continues, certains sont formulés pour des fonctions discrètes. Par exemple, je signale le principe d'incertitude de Donohoe Stark, 1989, étant donné une fonction f non nulle de g dans c, donc ça correspond à nos fonctions d'onde de Galois, d'une certaine manière, on a cette formule. Mais ici, pas avec un cas d'égalité, avec supérieur ou égal. Et le théorème de Donohoe Stark signale que le cas d'égalité correspond justement aux fonctions qui sont des fonctions indicatrices de sous-groupes. Donc, ce qu'on avait trouvé pour notre cas de Galois. Je signale qu'il existe un théorème le plus général qu'on ait trouvé, apparemment, qui concerne maintenant les groupes abéliens localement compacts, qui, en réalité, peuvent se décomposer sous la forme une puissance de R et un groupe, qui peut être par exemple un groupe fini, le cas de Galois, mais qui comprend aussi d'autres cas. Donc on a une formulation entropique du principe d'incertitude, où H, là, c'est l'entropie de Shannon. Bon, ceux qui connaissent. Et certains auteurs pensent que c'est mieux de formuler les principes d'indétermination avec cette notion d'entropie plutôt qu'avec les écarts-types sigma. Bon. Et par contre, ce théorème est très fort dans le sens où on peut déduire mathématiquement de ce principe la formulation classique de Heisenberg avec les sigma. Et on peut aussi déduire le principe de Donohoe-Stark, qui est écrit en haut, pour donc les groupes G finis. Donc, ce principe englobe à la fois le cas quantique et à la fois le cas discret abélien galoisien pour nous. Et ce théorème indique aussi les cas d'égalité qui sont les gaussiennes associées avec les fonctions indicatrices de sous-groupes. Donc, on voit qu'il commence de se dessiner un parallèle entre les distributions gaussiennes dans le cas quantique et les fonctions indicatrices de sous-groupes, dans le cas galoisien. Donc, on voudrait mettre en parallèle ces deux types d'états. Et donc, de même que dans le cas quantique, on parlera d'états cohérents comprimés. Donc, aussi bien dans le cas continu quantique, donc ce seront les gaussiennes avec cette formule, et dans le cas discret galoisien, ce seront les fonctions indicatrices des sous-groupes, un indice H. Dans les deux cas, ces fonctions réalisent les égalités des théorèmes d'indétermination. Donc ce sont des états qui ont un minimum d'indiscernabilité ou d'indétermination. D'autre part, c'est, dans les deux cas, ces états sont auto-duaux dans le sens où leur transformée de Fourier a la même forme que eux-mêmes. La transformée de Fourier d'une gaussienne, comme vous le savez, est aussi une gaussienne. Et la transformée de Fourier d'une fonction indicatrice de sous-groupe est une fonction indicatrice d'un autre, d'un sous-groupe, dans l'autre, dans le groupe dual. Ce qui n'est pas le cas pour les autres fonctions. De plus, ces familles de fonctions sont, forment ce qu'on appelle une famille over-complète en anglais. C'est-à-dire qu'on a une formule de reconstruction. N'importe quel état peut se décomposer sur les gaussiennes, peut être engendré par les gaussiennes. Et on a, d'après cette formule, bon, et on a montré que, bon, alors au moins, dans un certain cas, pour les groupes de Galois G de cardinal impair, on a également une formule de reconstruction. N'importe quel état F, n'importe quelle fonction F, peut se décomposer sur les fonctions ici, qui sont les, grosso modo les fonctions indicatrices de sous-groupes. Donc, encore un point commun de ces deux situations. Donc, pour conclure, je voudrais revenir sur les trois problèmes formulés initialement. Donc, le premier problème... et concernait des différences dans les interprétations philosophiques des deux notions. Celle de Galois avait une couleur plus subjective et celle de Heisenberg une couleur plus objective. Là, les résultats de dualité, de bidualité, qui mettent en, d'une certaine manière en équivalence les observables et les états, font penser que peut-être ces interprétations, en ce qui concerne ce problème en tout cas, hein, je ne parle pas d'interprétations plus larges, peut-être sont plutôt complémentaires, voire peut-être duales, plutôt qu'opposées. Bon, ça reste à approfondir. Deuxième problème, on avait remarqué que les symétries galoisiennes pouvaient être brisées dans le corps maximal, alors que le principe d'indétermination ne pouvait pas être contredit. En réalité, on s'aperçoit qu'il faut considérer deux variables. Il faut considérer simultanément, il faut se placer dans l'espace des phases et non pas dans l'espace de configuration. Il faut considérer le X et le P simultanément. Et donc, théoriquement au moins, le delta X peut devenir très petit. Mais la contrepartie, c'est que s'il devient tellement petit, le delta P va augmenter. En tout cas, dans le cas des gaussiennes, c'est ce qui se passe exactement. De même, dans Galois, quand on disait qu'on pouvait briser l'indiscernabilité des racines, effectivement, on peut réduire le groupe H d'indiscernabilité à son minimum, c'est-à-dire le groupe qui contient juste l'élément neutre. Mais la contrepartie, c'est que le groupe H' qui décrit les caractères, lui, va être total maintenant. Il va être maximal. H' sera égal à G chapeau. J'ai oublié le chapeau. Donc, ce qu'on gagne en discernabilité sur les états G, on le perd sur les observables, les qui, comme dans le cas quantique. On avait dit que, troisième problème, les limitations de connaissances pour le cas de Galois étaient mesurées par des sous-groupes H, alors qu'il était mesuré par des nombres. Dans le cas de la quantique, on n'a pas encore atteint certainement tout ce qui pouvait être atteint concernant les liens mathématiques entre ces deux situations, mais au moins on a pu dresser un parallèle avec la notion d'état cohérent comprimé qui apparaissent vraiment dans les deux situations et qui donc dresse un parallèle assez fort entre les gaussiennes et les fonctions indicatrices de sous-groupe, qui nous invite à parler d'une structure ou d'une ossature galoisienne pour l'indétermination quantique. Voilà, pour terminer, donc je voudrais signaler quelques points de recherche qui nous occupent, qu'on aimerait développer. On a supposé dans toute cette partie que G est abélien, comment généraliser au cas non abélien, peut-être avec la dualité de Tanaka. Bon. Y a-t-il plus d'articulation entre le cas continu et le cas discret? Peut-on retrouver les gaussiennes comme des limites des fonctions indicatrices? Bon, on n'a pas vraiment trouvé encore de choses dans cette direction. Autre question, comment interpréter les transformées de Fourier en termes de pouvoir de définition ou de pouvoir de discernabilité, comme on avait pu bien le formuler dans le cadre de Galois? On a l'impression qu'il y a certainement quelque chose d'équivalent avec les fonctions plus générales, mais c'est, bon, on n'a pas trop trouvé non plus. Et puis, au niveau philosophique, approfondir les interprétations épistémiques, ontologiques, vaste programme. Voilà, je vous remercie.